Bonjour à tous et merci d'être fidèles au podcast de Chajoum. C'est un plaisir de voir que vous l'écoutez, vous le likez, vous le partagez aussi sur Facebook, sur Instagram. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que Chajoum est sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et également sur Spotify pour notre podcast épisode 5 aujourd'hui. Et on continue notre série autour du livre Sur le chemin de la liberté, un livre que beaucoup de camarades de Chajoum ont sur leur table de chevet ou en bonne place dans leur bibliothèque. C'était donc tout naturel pour nous de commencer ces premières émissions de lecture live avec ce livre d'Avedis Aharonian. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents pour en savoir plus sur l'auteur et connaître également le contexte dans lequel il a écrit ses nouvelles. Maintenant, je laisse la parole à Satenig qui nous raconte aujourd'hui la vie de Tatul, son père le Derair Sarkis et sa sœur Kohar. Un extrait du livre Sur le chemin de la liberté d'Avedis Aharonian aux éditions Parenthèse, traduit de l'arménien par Léon Ketcheyan et Robert Dermergerian.
Cesse donc de prier. Au nord du village de Té, il existe un rocher si haut, si saillant et si difforme que personne ne grimpe sur ce sommet fier et laid. Seuls les rapaces y dévorent leurs proies ensanglantées ou s'y reposent après de longs vols. Après quoi, le vent qui erre sans repos vient y chercher sa fin introuvable. Mais tantôt coléreux et hurlant, tantôt gémissant, il passe son chemin et s'en va. Au dos de ce rocher s'appuient quelques collines et d'autres rochers qui semblent tous d'accord pour pousser par derrière ce pic majestueux afin de le bouger et de le déplacer. Cependant, ce premier rocher restait insouciant, comme un géant qui a conscience de son énorme force et présentait son dos à la pression de tous pour les retenir éternellement par une patience illimitée. On aurait cru qu'il savait que sans lui, des milliers de rochers s'écrouleraient les uns après les autres vers le village de Té, pour couvrir d'éboulis tous les villageois qui, se fiant à sa force, s'étaient installés à ses pieds. L'éclair illuminait son sommet, la lueur de la foudre léchait sa cime, la grêle le martelait, la pluie l'inondait, et au cours des hivers rigoureux, la tempête essayait de le culbuter, mais tout cela en vain. Les années se succédaient, le rocher était toujours là, inébranlable et hargneux, comme un vieux géant qui, sous le poids énorme de son fardeau, fronçait seulement les sourcils. Au cours des étés torrides, quand les animaux et les gens suffoquent sous l'effet de la chaleur, alors que les vents frais semblent s'être fâchés et fuient ce pays brûlé, et que d'en haut le soleil jette du feu de tous côtés par ses rayons brûlants, on trouve au pied de ce rocher une fraîcheur très agréable. La maison et la grange du père Sarkis en étaient proches. Le vieux prêtre aime bien se reposer à l'ombre du rocher après avoir fini le blutage dans la grange. Souvent, à ces heures-ci, le res, le chef du village, et les paysans s'y réunissaient pour discuter de leur travail, de leurs soucis, leurs tracas. Beg et Cher, avec leurs serviteurs, ou fonctionnaires turcs avec leurs aptiers se reposaient à l'ombre fraîche de ce rocher et se faisaient servir des rafraîchissements quand ils visitaient le village de Té l'été. Que de choses avait vu et entendu ce rocher des années durant, mais il n'en restait pas moins muet. C'était la fin de l'été. Il faisait encore très chaud, mais on ne voyait aucun signe de vie dans les granges. Il n'y avait plus personne au pied du rocher et les rues étaient désertes, car ce jour-là, tous les paysans s'étaient rendus à l'église. L'assemblée des fidèles, grands et petits, hommes et femmes, s'était réunie autour de deux cercueils, et le père Sarkis disait l'office funèbre. Il y avait, en tout et pour tout, 6 mois seulement que Muro et Navo avaient été emprisonnés, et aujourd'hui, c'est dans un cercueil qu'on les avait sortis de prison. On disait qu'ils étaient tombés malades et en étaient morts. Mais pourquoi les avait-on emprisonnés ? Personne ne l'avait su, ni les victimes, ni leurs voisins. Parmi tous les villageois, seul Tatoul, le fils du père Sarkis, a froncé les sourcils, s'est mordu les lèvres et s'est agité comme un oiseau en cage, cherchant une issue. Puis, voyant l'impuissance de ses efforts, il s'est calmé et s'est tu, tout simplement. Depuis son enfance, les paysans l'appelaient Tatoul le Juste, parce que toute injustice dans le village le mettait en colère. Et quand on battait quelqu'un, qu'on l'emprisonnait, qu'on le volait ou qu'on le déshonorait, Tatoul se mordait les lèvres et devenait hargneux. Tatoul savait qu'il fallait faire quelque chose, que cela n'était pas juste, mais que faire ? Il n'en savait rien. Aujourd'hui, ce que faire semblait trouver une réponse. Il était hargneux, soucieux et préoccupé. Il se mordait les lèvres, encore et toujours, et oubliait même d'agiter l'encensoir en temps voulu. Il fixait le visage des morts avec une telle attention obstinée qu'il y lisait son avenir. Le visage de Navo et celui de Muro ne ressemblaient pas à des visages de mort. Il lui sembla même un instant que les lèvres de Navo avaient frémi et qu'il avait murmuré quelque chose. Tatoul vit même la tête du mort bouger puis se redresser. Oubliant aussi bien l'encensoir que l'assemblée des fidèles, le cœur battant très fort et avec une profonde émotion, il s'avança et se pencha un peu vers le mort pour mieux écouter son murmure mystérieux. Mais à ce même instant, son père s'écria d'une voix coléreuse : « Tatoul, qu'est-ce qui t'arrive ? Et l'encensoir ?» Tatoul marcha à reculons. Le visage des morts restait immobile et les têtes à leur place. Il agita l'encensoir, mais du côté tout à fait opposé, ce qui devait plonger l'assemblée dans une stupéfaction totale. Le curé lut la dernière prière et s'avança au pied des morts. Tatoul était satisfait, car à présent il pouvait observer leur visage, et il regardait. Il y avait un bleu sous le sourcil déformé de Navo, et sous l'œil de Muro, il y avait un gros hématome. D'autre part, ses yeux, qui restaient ouverts, n'avaient pas de cils. Ils avaient été arrachés. Sur la lèvre supérieure de Muro, il y avait une déchirure par où l'on pouvait voir ses gencives et des dents cassées. Cette fois encore, les visages n'étaient pas muets. Ils lui parlaient avec les yeux, les sourcils, les lèvres. Ils racontaient à Tatoul des choses horribles. Tatoul savait à présent ce que signifiait cette expression étrange qu'aucun autre visage de mort n'avait eu dans cette église. Il savait le secret de Navo et de Muro, ce secret que le cimetière ne pourrait plus cacher. Il savait désormais ce que signifiaient la prison et la justice turque. L'enterrement était fini. Dans les granges, le travail avait repris. C'était l'heure du repas. Tatoul et son père se préparaient à étaler les bottes de foin pour amorcer le dépiquage. Face à deux bottes, père et fils se trouvèrent en désaccord. L'un proposait de commencer par la petite botte, l'autre par la plus grosse. Le père Sarkis n'aimait pas qu'on le contredise. Aussi s'avança-t-il la fourche à la main, vers la grande botte. À cet instant, Tatoul fit un tel mouvement qu'il semblait vouloir empêcher son père d'approcher le tas de foin. Puis il s'immobilisa pendant un instant préoccupé et soudain fit un geste spontané de la main avec l'audace d'un homme qui a pris une décision déterminée. Il s'approcha lui aussi d'un pas décidé vers cette même botte. Simultanément, père et fils enfourchèrent chacun une botte. Ils les soulevèrent et s'immobilisèrent ensemble, sans pouvoir les jeter d'un côté ou de l'autre. « Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, » murmura le curé, jetant botte et fourche, blême. Il recula, en regardant d'un œil terrifié le trou qui s'était ouvert dans la meule après avoir ôté seulement deux bottes. On aurait pu croire que deux serpents terrifiants y avaient fait leur nid. Puis de nouveau, il s'avança vers la meule prudemment, sur la pointe des pieds, comme s'il craignait d'éveiller les reptiles assoupis par la chaleur. Une fois de plus, il regarda encore dans cette ouverture béante que présentait la meule, le souffle coupé par l'émotion. Il releva la tête et leurs regards se croisèrent. Le fils, courageux, et le père, effrayé, s'observèrent en silence un instant. Là-bas, cachés dans la meule, quelques canons de fusil brillaient maintenant sous les rayons du soleil. Le père tendit le doigt vers cette cache effroyable et le visage crispé s'écria : « Ça, c'est toi qui ?»« Oui, moi. » »« C'est l'esprit du mal qui t'a saisi, tu as perdu la tête, à moins que Dieu ne t'ait maudit, toi et mon foyer ?» « Ce n'est pas l'esprit du mal qui m'a saisi, je n'ai pas perdu la tête non plus, et Dieu ne m'a pas damné, pas plus que notre foyer. Pour une telle chose, le bon Dieu ne peut pas maudire. » Alors comment ces choses sont arrivées jusque dans la grange de Sarkis? Le monde n'est plus assez grand pour mettre ça ailleurs? Quel est le diable qui t'a conseillé? Père, t'as vu leur visage? Quel visage? T'as regardé le visage de Navo, celui de Mouro? Oui, j'ai vu deux visages de morts, j'en ai vu beaucoup d'autres avant eux et j'en verrai encore beaucoup d'autres. Personne n'est immortel. Père, il y a mourir et mourir. Ces deux-là n'étaient pas morts. Mouro et Navo, on les a pas ramenés morts peut-être? Oui, c'est vrai, on les a ramenés de prison. Mais ils n'étaient pas morts. T'as regardé leur visage? Ils parlaient. Et j'ai entendu moi ce qu'ils disaient pendant que je les encensais. Ils ont murmuré et j'ai compris de telles choses. Malheur à ceux qui ne les entendront pas. Et j'ai pris ces fusils, moi. Ton fusil. Maudis-moi si tu veux. La malédiction du père est chose horrible, mais notre situation actuelle, elle aussi, n'a pas de nom. Il y eut un silence, quelques minutes. « Je ne te maudirai pas, fils, » dit le curé un peu calmé après avoir remarqué l'émotion de son enfant. « Je ne te maudis pas, la malédiction ne sortira pas de mes lèvres, mais seulement une prière. Dès maintenant, je vais prier pour toi et pour le monde entier. » « Des prières ? À quoi elles ont servi tes prières quand Mouro se faisait casser les dents, quand il se faisait défoncer l'arcade, arracher les sourcils, et quant au reste, demande-le au mur de la prison, non père ?» Je ne prierai plus. Cette main n'encensera plus. Mes lèvres ne prononceront plus de prières et de supplications. Jamais plus de soupirs et de sanglots ne sortiront de ma poitrine. Dorénavant, j'agirai ainsi au lieu de prier. Et si ça déplaît à Dieu, je protesterai même auprès de lui. Et je crierai au monde entier que la justice ne vient pas du ciel, que Dieu protège l'injustice et la méchanceté. Mais c'est impossible, j'en suis sûre, et le ciel bénira lui aussi la voie que je me suis tracée. Écoute-moi, mon fils, je suis vieux, j'ai de l'expérience, mais toi, tu es jeune et inexpérimenté. Ce que tu dis est dicté par le mal. Le chrétien arménien ressemble à ce rocher. Ses ennemis sont des tempêtes qui passeront sans pouvoir le détruire. Sois tranquille et prie Dieu. Quant à ces choses, tu les feras disparaître ce soir même. Le prêtre indiquait les fusils du doigt et que personne ne t'entende. Ce soir même, je les ferai disparaître, mais sache que tu ne me reverras plus. Et cette même nuit, Tatoul disparut.
On a envie de savoir ce qui va se passer. Une petite pause musicale dans ce podcast de Chajoum avec un extrait de l'album Genats Pacha, c'est le nouvel album du groupe Papier d'Arménie. Et voici le titre Noubar à découvrir en coup de cœur.
Bari'de boyu çinare Açkeren uşu kumare Gire korvalu senin aman Hunkere geru gamare Alev soraz sari kari Lubar gertan teberin O vordesini Sari kari Lubar gertan Tebedi O bordesini Manubari Çimoran Aram Poştali O bordesini Thank you.
Cela faisait déjà une semaine que Haki Bey jouissait de la riche table du révérend père Sarkis à l'ombre du rocher. C'était son habitude de venir chaque été, séjourner quelques jours, chez son ami. Mais il n'était jamais resté aussi longtemps, ce qui présageait des jours de malheur pour le curé et les villageois. Tous craignaient pour Gohar, la fille du curé, dont la beauté était renommée dans la région. Priant sans cesse, le curé essayait de satisfaire à tout prix les exigences du bey. Et il espérait. Quelques jours encore s'écoulèrent avant qu'il ne rentre un soir chez lui en titubant de fatigue. Après que le village se fut endormi, il pria très longtemps dans la nuit. De ses yeux âgés coulaient des larmes amères. Il sanglotait comme un enfant. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda la maîtresse de maison. « Est-il arrivé un malheur à Tatoul ?»« Si seulement mes larmes étaient pour Tatoul, ce bey, c'est le diable en personne. »« Quoi, le bey ?» il demande Gohar. « Sinon, il dit qu'il va détruire et brûler le village. » Je voudrais être aveugle et sourde pour ne pas voir et entendre ça. C'est pour ça que je vis. » La femme se mit à sangloter. Je l'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai embrassé ses mains, cette barbe et ses cheveux blancs, je les ai traînés à ses pieds. En vain, il détruira le village. Oh mon Dieu, pour quel péché tout cela ? Il y eut un silence. « Père, je ne dors pas !» s'écria soudain Gohar. J'ai tout entendu. Sois miséricordieux. Dis-moi au moins, où est mon frère, mon Tatoul ? C'est la main puissante du frère qui doit défendre l'honneur de sa sœur. Où est cette main ? Ce n'est pas pour rien que les filles jurent sur la vie de leur frère, non ? Où est Tatoul dans ces journées de malheur ? Où est mon frère ? Tu ne le sais pas, père ? Combien de fois te l'ai-je demandé ? Tu te tais toujours. S'il était là, le bey ne m'emmènerait pas. Tatoul ne me donnerait pas. Maintenant, au moins, dis-le-moi, père impitoyable. Où est Tatoul ? Le père écoutait comme un condamné. Agité et en larmes, sa fille parlait sans cesse. « Je n'ai plus rien, continuait la fille. Rien, rien. Mon frère m'a laissé seule et sans défense. Mon père reste impuissant face à ce bey, sans foi ni loi. » « Filles infortunées, pourquoi gardez-vous votre honneur ? Levez-vous ensemble, main dans la main, pour vous jeter du haut du rocher, ou vendons-nous au bey, puisque notre honneur lui appartient quand père et frère nous laissent sans défense. Moi, la première, je me donnerai au bey. » Elle se leva soudain et se dirigea vers la porte d'un pas rapide, l'ouvrit et disparut dans l'obscurité. Les pleurs des deux vieillards retentirent dans le silence de la chaumière. Le lendemain matin, le village, effrayé, apprit l'événement de la nuit, la disparition de Gohar. Le curé était attaché au pied du rocher parce qu'il était soupçonné d'avoir caché sa fille. De ses yeux éteints, il regardait le malheureux village d'où s'élevaient des pleurs et des malédictions. Le pillage avait commencé. Le curé, quant à lui, ne pleurait plus. mais réfléchissait. Il ne priait plus, mais haïssait. Il aurait voulu voir Tatoul, et lui seul, avec ses fusils luisants, ses yeux vifs et ses sourcils terrifiants. Mais Tatoul n'était toujours pas là. À qui la faute ? À lui, Sarkis, et à lui seul. Puis il se mit à penser que Tatoul n'aurait pas pu oublier son foyer natal et son village. C'était impossible. Ah, s'il pouvait seulement savoir ce qui se passait au village, il serait venu comme un aigle. Ses yeux se tournaient spontanément du côté de la colline où il y avait un sentier tortueux qui s'étirait vers le haut du village. Il regardait et attendait. Apparut le bey. Ses efforts pour trouver Gohar étaient restés vains. « Où est Gohar ? » dit-il en colère. « Bey, je te l'ai dit, c'est elle-même qui s'est enfuie. Bey, nous avons depuis des années partagé ensemble le pain et le sel. Ma maison, mon foyer ont toujours été ouverts pour toi. Écoute-moi, ne piétine pas ce pain et ce sel. Bey, ne nous fais pas de mal, regarde le ciel, Dieu y règne. » Nos religions sont certes différentes, mais n'est-ce pas le même Dieu qui nous jugera tous ? Les temps ont changé. Où est Gohar ? Bey, épargne ma vieillesse. Laisse le village tranquille, ou bien alors détruis seulement ma maison. Ne me déshonore pas, Bey. Je t'en supplie pour la dernière fois, Bey. Dieu, notre Dieu et le vôtre ne sont pas le même. Dis-moi où est Gohar, et vite, sinon... Il marcha droit sur le vieillard, les poings serrés, en grinçant des dents. À présent, ils étaient si près que chacun ressentait le souffle de l'autre. Ils se regardèrent un instant sans un mot. C'est le prêtre qui rompit le silence. « Bey !» Mais il ne put continuer et cracha de toutes ses forces au visage du bey. L'injure était terrible. Enragé, le bey recula pour lancer quelques ordres et aussitôt quelques fusils s'alignèrent face au prêtre. Le curé comprit que la mort était proche. Il releva la tête à nouveau et regarda la route. Devait-il mourir sans avoir revu son Tatoul ? Ne reviendrait-il pas ? Sur la route, il n'y avait rien, sinon un nuage gris qui descendait calmement du sommet de la colline. Était-ce vraiment un nuage ou de la poussière ? Pourquoi donc ce nuage-là ne pourrait-il pas être Tatoul, pensait le prêtre. Il me faudrait un moyen pour vivre encore quelques heures, se disait-il. Seulement quelques heures. Je sais bien que c'est Tatoul. Il ne pourrait oublier son foyer et son village. Il lui était difficile de demander encore une grâce au bey, mais c'était pourtant la seule solution. « Bey, dit-il, je n'ai pas peur de la mort. Ici-bas, tu ne m'as rien laissé dont la séparation me soit pénible. Permets-moi seulement de prier une dernière fois. Prie !» Le prêtre se mit à prier. Il priait et regardait la route d'où descendait rapidement le nuage de poussière. Il prononçait lentement chaque mot de sa prière, calmement, en essayant de gagner le plus de temps possible, de vivre davantage. Pendant que le nuage de poussière descendait sans cesse, c'était la première fois que le père Sarkis priait sans pour autant adresser ses prières à Dieu. C'était la première fois que sa prière devenait un outil préparant une vengeance sanglante. Aujourd'hui, en effet, il ne priait même plus. Il prononçait des mots qui avaient perdu leur sens, qui lui permettaient seulement de gagner du temps et qui n'avaient vraiment aucune finalité. Il aurait aimé, aujourd'hui, que sa prière n'ait pas de fin. Combien de fois sa prière avait-elle fini ? Combien de fois l'avait-il recommencé et continué avec la même lenteur ? Le soleil se couchait, le brouillard du crépuscule descendait sur le pays. À l'est, un croissant de lune se mit à briller et ses rayons froids tombèrent sur terre avec des ombres lugubres. Ces rayons avait également atteint le malheureux village et le rocher auprès duquel se préparait le crime. La patience des bourreaux était épuisée. « Ça suffit !» s'écria le bey. « Dis-moi maintenant pour la dernière fois, où est Kohar ?» Le père Sarkis garda le silence. Désespéré, il attendait la mort. Tatoul n'était pas là. Le bey fit un signe et les Kurdes dirigèrent leurs fusils vers le prêtre. Mais soudain, tous s'arrêtèrent. D'en haut du sommet du rocher, une voix avait retenti. « Kohar est ici, bey. Viens la chercher. Regarde, je suis là. Que veux-tu de ce pauvre vieillard, espèce de chien éhonté ?» Tous les regards s'étaient tournés vers le sommet du rocher. Là-bas, au point le plus élevé du pic, sous les rayons de la lune, se découpait une merveilleuse silhouette féminine. Son seul vêtement était une chemise de toile blanche qui couvrait sa nudité jusqu'aux jambes. Des cheveux longs et noirs tombaient en désordre sur ses épaules et dans son dos, et la brise du soir jouait avec eux. Elle était là, debout, comme un ange descendu du ciel, qui de sa hauteur observait les crimes impensables qui se déroulaient en bas, sur la terre. Le bey oublia tout. Le prêtre, le sac du village, l'affront terrible venu du haut du rocher. Ensorcelé par cette image merveilleuse, il regardait là-haut, incapable d'en détacher son regard. Quittant la maison la nuit précédente, Kohar avait pris la fuite et, peinant sur le rocher toute la nuit, elle avait atteint son sommet en y déposant, tout près du ciel, son honneur et sa virginité. Toute la journée, elle avait observé de là, secrètement, tout ce qui se passait au village. Le soir, quand elle vit que le bey allait tuer son père, elle prit une décision terrible. Appeler, révéler sa cachette, se jeter du sommet du rocher et par sa mort, sauver la vie de son père. Voilà que maintenant, elle appelait le bey pour qu'il vienne la chercher. Quatre ou cinq Kurdes, se séparant du groupe, se dirigèrent vers les collines pour en revenir hors d'haleine quelques minutes plus tard, en criant au bey de s'échapper et de fuir car le village fourmillait de fedaïs. « Feu !» hurla le bey. « Feu !» Au même instant, les fusils détonnèrent et quelques balles volèrent vers le vieux prêtre. On entendit derrière d'autres détonations. Quelques Kurdes tombèrent, victimes des coups d'un autre groupe. Au pied du rocher commençait un combat acharné. C'était Tatoul, avec son groupe. Il était hors de lui, impitoyable. Quelques Kurdes avaient pu fuir en courant, les autres tombèrent, blessés ou morts. Le bey tomba lui aussi. Le cœur gros, Tatoul s'approcha du rocher et regarda le corps de son père affalé contre la falaise. Il le prit dans ses bras avant de sangloter, mais le vieillard respirait encore. Il ouvrit les yeux, reconnut son fils et murmura affectueusement « Ne prie plus, Dieu te pardonnera ». Un peu plus tard, Kohar pleurait elle aussi sur le corps de son père.
Merci à toi Satenig, le podcast de Chajoum. Aimez, partagez, commentez-le aussi, on vous attend pour ça sur nos réseaux sociaux, Chajoum, Le Mouvement sur Facebook et Instagram. À très bientôt pour se replonger dans cette œuvre d'Avedi Saharonian sur le chemin de la liberté aux éditions Parenthèses et avec la traduction de Léon Ketcheyan et Robert Dermergerian.